Tu veux jouer?
Allez, moi je joue.
Mais on est en plein milieu d'une campagne.
La partie n'est pas finie.
Parce que ça fait 10 heures que vous jouez.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À quoi tu triches? Le podcast qui décortique les joueurs que nous sommes. Tous les 15 jours, une joueuse ou un joueur vient nous parler de sa relation au jeu pour un portrait sans triche. Alors, nous allons parler de jeu, mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yello, éditeur et distributeur de jeux de société. Bonjour à tous, cette année j'ai profité du Festival des Jeux de Vichy pour enregistrer quelques épisodes avec des personnes extrêmement sympathiques. Les conditions d'enregistrement n'étaient pas forcément les plus agréables, donc je m'excuse par avance pour la qualité du son. Vous entendrez sans doute quelques brouhahas, quelques rires, quelques personnes discuter dans le fond, mais je crois qu'on entend quand même correctement l'essentiel, à savoir mes invités.
Et du coup, nous sommes très heureux d'accueillir Mathilde dans le podcast. Salut Mathilde.
Salut.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Écoute, ça va, là tu m'emmènes sur une terrasse au soleil, à Vichy, il fait
exactement.
Bon, tout va bien.
Ah, je sais recevoir.
Mais oui, mais oui.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer?
Oui, bah écoute, je m'appelle Mathilde, je travaille chez Helvetic, après avoir travaillé 14 ans chez JMIC, on connaît plutôt sous cette casquette-là.
Yes.
Et donc, je m'occupe de la communication et du marketing pour Helvetic.
Yes. Et ok, et bah écoute, on va parler de toi en tant que joueuse pendant ce podcast. Alors moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton premier souvenir de jeu?
Ah, alors mon premier
quand
souvenir de jeu,
quand j'étais petite,
jeune enfant. On avait les classiques, mon frère m'a beaucoup battu au Monopoly et la Bonne Paye et compagnie. Après, on a joué pas mal aux échecs.
Ouais.
Et après tous les ans pour Nouvel An on achetait un nouveau jeu de société, c'était un peu l'événement.
Ah oui.
L'événement du truc, on achetait un nouveau jeu, donc ça pouvait être des trucs genre des fifous, voilà, ce genre de petits jeux vraiment vraiment grand public. On jouait pas mal au tarot aussi.
Ouais.
Et puis après en grandissant au poker. Et puis mon frère est tombé complètement dans le geek jeu de rôle, jeu de cartes à collectionner, et donc il m'a embarqué avec lui, donc là c'était plutôt
du Magic. Ça avec ton frère.
C'est mon frère qui m'a embarqué, donc c'est mon grand frère, donc forcément moi je voulais m'intéresser à ce qui l'intéressait.
Évidemment.
Et donc j'ai joué au jeu de rôle, j'ai joué à Magic, j'ai joué, voilà.
Donc ça un peu plus grande.
Ouais, ça déjà un peu plus grande, ouais. Les tout premiers souvenirs, ouais, ça, après c'était aussi les docteurs Maboule et les Picpus et ce genre de trucs.
Ces trucs qu'on trouvait à l'époque, ouais.
Ouais.
Et qu'on trouve toujours d'ailleurs.
Et celui, comment il s'appelle? C'est Attrape-souris, celui où on fait le piège au fur et à mesure et à la fin le truc il tombe, c'est tellement jouissif.
C'est ça. Et tu joues encore en famille?
Ouais, j'ai une petite fille de 8 ans. Et donc on a mis un peu en place le rituel. Après le repas, on joue un jeu de société avant d'aller se coucher.
Ah ouais.
Donc pratiquement tous les soirs, on sort un jeu. Alors elle a des phases.
Des phases, ouais, ouais. J'imagine.
Donc on va jouer au même jeu. Genre là, elle a découvert Art Robbery, qui est chez Helvetic. Et dans Art Robbery, elle est tombée amoureuse parce qu'il y a une figurine de chien qu'on a appelée Michel. Et donc elle ne joue que pour garder Michel, pour ne pas se faire piquer Michel. Et elle gagne en plus. Voilà, donc on a des parades comme ça. On joue pas mal à Hilo de chez Gigamic aussi, ou des choses comme ça. Mm-hmm. Donc on joue tous les soirs.
Et si t'étais enfant aujourd'hui, tu jouerais à quoi, tu penses?
Si j'étais enfant aujourd'hui, à quoi je jouerais?
Toi, enfant.
Bon, moi, enfant. C'est une bonne question, ça. Ouais, il faut avoir les titres, peut-être.
Ouais, après, tu peux nous décrire, ou même, pas obligé de nous dire un jeu en particulier, mais peut-être un type de jeu.
Non, c'est les jeux, ce que je trouve vachement intéressant en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux narratifs.
Ouais.
Et moi qui suis plutôt littéraire. Moi j'aime inventer des histoires, j'aime qu'on me raconte des histoires, et du coup je pense voilà ce genre de jeu qui amène vers la narration. J'ai fait jouer ma fille à mon premier jeu de rôle et c'est juste fantastique parce que parce qu'ils ont une imagination débordante et une logique des fois qui est implacable et qui est géniale.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est le genre de jeu auquel j'aurais aimé jouer.
Et là, en plus, avec ta fille, tu rentres dans un âge où elle va commencer à jouer de plus en plus à des jeux auquel tu joues aussi.
Voilà, là ça y est, on est sorti de la phase où il faut jouer à Bijoux, mais ouais. Des trucs de mémoire qui sont insupportables pour nous au bout d'un moment. Surtout à la 14e partie d'affilée, on n'en peut plus. Et donc là, on commence à sortir des aventuriers du rail, des jeux d'apéro, Ilo, comme
c'est
on,
ça,
on,
ouais.
On peut jouer, voilà. Moi aussi, j'ai plaisir à jouer avec elle et ça fait du bien.
C'est cool.
Ouais.
Et alors, à quel moment t'as découvert le jeu moderne? Est-ce que tu te souviens du jeu qui t'a fait découvrir
J'ai commencé par les risques. On a joué beaucoup à risque avec mon frère. Et en fait, mon frère, ensuite, vivait à Lille. Il est central dans ma vie, mon frère, en moi.
Ouais.
Et en fait, il était proche des gens de chez Rocambole. C'est un super magasin du Vieux-Lille qui est magnifique et qui a des gens vraiment super dedans avec un super conseil. Et donc, il a commencé presque toutes les semaines, quand il rentrait de Lille, à ramener un jeu donc de magasin spécialisé. Et donc, on a eu une sorte de courbe d'apprentissage où au début, c'était les plus simples. Et puis, on a commencé à aller vers les Quélus. Je me souviens du coup de jouer à des jeux complètement improbables d'éditeur allemand parce qu'à l'époque on localisait pas forcément. Donc il y avait Chrono, Kragen, je m'en souviens toute ma vie. On jouait beaucoup à Chrono, Kragen. Voilà, donc c'est venu par mon frère et par les conseils de Rocambole.
Tu veux dire que c'était vraiment un jeu allemand et
il était vendu sous le nom Chrono, Kragen avec, tu sais, on faisait encore des règles photocopiées qu'on mettait derrière et on recellophanait le
jeu. Ok, oui, je vois. Donc, ouais, donc déjà bien spécialisé à ce moment-là. Et comment t'es rentrée dans le monde du jeu? Comment ça se fait que tu travailles maintenant dans le monde du jeu?
Par complet hasard, je te dirais. Parce qu'en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai fait des études littéraires. J'ai un master en littérature de poésie moderne, de recherche en poésie moderne, c'est très intéressant. Beaucoup d'avenir là-dedans. Et je voulais pas être prof, c'est pas ce qui m'appelait. Et du coup, j'ai fait un peu de journaliste pendant 2 ans.
Ok.
Courage à tous les journalistes parce que j'ai trouvé que c'était une vie quand même vachement compliquée. Au niveau de la vie personnelle, faut quand même être accroché. Et puis c'est très stressant parce que c'était un quotidien, donc il fallait que tous les soirs, il faut qu'il y ait un journal qui soit plein. Et voilà, j'ai vu que c'était pas forcément la méga vocation. Et en fait, j'ai rencontré un chasseur de tête. D'un mec et qui avait besoin d'une attachée de presse communication pour une campagne politique. Alors moi ça me parlait pas tant que ça. J'ai vu que c'était pas complètement contre mes idées. De toute façon ça faisait une expérience, donc du coup j'y suis allée. On s'est très bien entendu. Il a fait un four complet, c'était une catastrophe. On a bien rigolé, on a bien travaillé. Et du coup, à ce moment-là, Gigamic, eux, ils cherchaient quelqu'un un peu polyvalent, parce que c'était encore une petite boîte, il y avait 7 personnes chez Gigamic. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un de polyvalent, qui soit assez littéraire pour notamment les traductions, les règles de jeu et toute la communication autour des jeux. Et donc, du coup, il m'a mis en contact avec eux. Et quand je suis rentrée, moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait Gigamic qui était éditeur de jeux, qui était là. J'avais aucune idée de ça, mais par contre je connaissais leur jeu et notamment ce Chrono, Kragen. C'est quand ça. Je suis rentrée dans le champ, j'ai dit Chrono, Kragen, c'est un de mes jeux préférés. Ils étaient sur le cul. et le hasard aussi a voulu qu'un de mes jeux préférés quand j'étais ado, c'est un jeu de Gigamic que j'ai acheté à mes futurs patrons au salon de la maquette à Paris qui avait à ce moment-là, et je leur ai acheté une version de Pylos aujourd'hui, mais qui s'appelait Piraos avant parce qu'il y a un problème de nom, qui était en plastique. Et donc c'est une version qui n'existe plus depuis longtemps. Mais je l'ai ce jeu, moi j'ai la version turquoise et blanche. Donc ils ont vu que...
Et tu l'avais acheté sur
un salon. Et je l'ai acheté quand j'avais 14 ans. Et c'était forcément à eux parce qu'ils étaient que deux à l'époque, trois avec les trois frères. Et donc je les avais rencontrés à ce moment-là.
Mais c'est trop drôle.
Et ça a été mon jeu préféré. J'ai fait suer ma famille avec ce jeu pendant des mois. J'adorais ça.
Mais c'est marrant parce que donc toi t'avais rencontré les boss de Gigamic avant de travailler avec eux. Mais David aussi m'a raconté un peu une histoire similaire. Il m'a raconté qu'il avait joué à je ne sais plus quel jeu et que du coup il avait été pris en photo dans, je sais pas si c'était dans le journal ou pris en photo comme ça, ils ont retrouvé une photo de lui plus jeune.
Ah, mais oui, oui, oui.
C'est incroyable, oui. Vos histoires.
Il y a des synchronicités comme ça.
C'est trop drôle. Et mais t'étais joueuse, donc ça t'a...
Ah bah moi, ça m'a... Oui,
tout de suite,
bah, j'ai trouvé en fait, que c'était quand même... Déjà, j'aimais le fait que ce soit une petite boîte, ouais, familiale, et du coup, il y avait plein de choses à faire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire un seul truc,
ouais,
parce que ça me saoule très vite. Donc, j'ai besoin de pouvoir faire plein de choses, et j'ai vraiment pu construire mon poste un peu comme je le voulais, parce qu'il y avait tellement de choses à faire que j'allais picorer, ouais, ce que je préférais dedans. Et puis voilà, c'est un univers qui est joyeux, qui est positif, de quelque chose que j'aime bien. Donc ça, ouais, ça me parlait.
Mais alors tu faisais de la traduction, de la relecture, de la communication.
Alors quand je suis arrivée, je crois que j'étais, je crois que le poste officiel, ça devait être assistante marketing. Mais du coup, oui, j'ai rapidement, fait tout ce qui était un peu rédactionnel en fait.
Ah ouais.
Un peu, voilà. Et puis aussi, les choix des protos avec le reste,
ouais,
de l'équipe. Enfin, j'avais un peu de bagage de graphisme, alors du coup, je faisais du catalogue. Enfin, tu vois, c'est ça qui est génial dans les petites boîtes, c'est que je faisais 50 métiers en même temps, quoi. Ça resserrait un petit peu au fur et à mesure, mais ça restait varié quand même.
Et t'as même fini par faire un jeu.
Ah oui, j'en ai fait, hein. J'ai eu un accident, j'ai ripé. Mais c'était drôle de passer de ce côté-là.
C'est marrant,
mais... oui. Oui, c'était marrant. Et puis en fait, je l'ai créé. En fait, j'étais en congé maternité.
Ouais, ok.
Et je pense que c'était avant que le bébé arrive. Et j'étais là,
qu'est-ce que je fais?
La layette est prête, la chambre est repeinte. Et puis, je pense que quand on a du temps,
ouais,
c'est là aussi on peut être créatif. Des fois, ouais, enfin, en tout cas, moi je suis lente. Du coup, j'ai besoin. Je peux pas être dans le speed et créatif, c'est compliqué, je trouve. Et donc, du coup, j'ai eu ce truc, et puis voilà, je pense que le jeu me manquait un petit peu, et du coup, voilà, je suis venue avec cette idée de jeu. Mais c'était rigolo, quand même.
Oui, donc, on est sur une vraie professionnelle du jeu. Attention. Parce que oui, t'es dans le jeu professionnellement depuis plus de 15 ans, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc, t'as vu aussi le monde du jeu évoluer.
Oh oui, mon Dieu.
Oui, oui.
Bah, je pense que JGM qui était assez représentatif de ça, hein, parce que quand je suis arrivée, on était 7, quand je suis partie, on était 40. Finalement, en 14 ans, hein, donc c'est pas non plus.
Ah bah, clairement.
Et puis Hachette avait débarqué dans le milieu,
ouais,
et d'un coup, elle me dit donc, ça a l'air sympa chez vous. Alors qu'avant, on nous regardait comme des vieux geeks,
oui,
des années 80.
Enfin
voilà, on était quand même vu comme un hobby un peu old school,
oui,
un peu geek, quoi. Et on a vu toute l'image changer. Et puis la professionnalisation du milieu, des métiers.
Ouais, t'as assisté à pas mal de choses.
Ah bah, on est sorti des boîtes allemandes un peu austères,
ouais,
où finalement l'esthétique, on s'en foutait un peu. Et puis d'un coup, je trouve que la France, pour ça, elle a vraiment ramené quelque chose,
ouais,
notamment,
ouais,
des sociétés comme Ubelude ou Yellow. Voilà, il y a eu d'un coup le. Mais attendez, on va faire. Ça va être joli. En plus, vous allez voir, ça va être vachement sympa. Et,
ouais,
d'un coup, et puis des mécaniques qui sont apparues, qui
sont hyper
innovatrices. Et puis de voir l'engouement, on a quand même, enfin, je calcule ma chance d'être dans un domaine où tous les ans on sortait le champagne parce qu'on était contents,
ouais,
quoi, parce que ça se passait bien.
Ouais.
Et je voyais autour de moi des gens qui étaient dans d'autres domaines où, qui ramaient, qui avaient peur pour l'année d'après.
Mm.
Et pour nous, c'est
oui, c'est vrai que
confortable, c'est
là
un but,
pour l'instant,
quoi,
d'année en année,
ah,
c'est
oui,
toujours mieux.
Tout va bien, quoi.
Tout va bien. Ouais.
Ouais.
Et t'as constaté aussi que les catalogues grandissaient énormément.
Ouais, j'ai constaté ça, et je le constate d'autant plus que chez Helvétique, on fait du jeu, mais on fait aussi du livre, presque à 50-50.
Oui, c'est vrai, ça.
Donc en termes
de jeu, des nouvelles choses.
Ouais, c'est ça qui était assez intéressant, en fait, d'aller chez Helvétique, c'était la partie livre qui me parlait forcément,
ouais,
pas mal. Mais du coup, je vois ce qui se passe du côté du livre. Tu vois, même si notre activité elle est presque à 50-50, n'empêche qu'on sort trois fois plus de livres que de jeux.
Ouais.
Et y a un rythme de sortie qui est démentiel, qui est épuisant, parce que t'as l'impression que tu m'attendais, laissez-moi le temps de le défendre.
Ah non,
on est au suivant. Et je me dis, il ne faut pas qu'on fasse ça en fait. Hein.
Mm.
faut pas qu'on fasse ça. Je pense qu'en plus, ça fait beaucoup de gâchis, éventuellement. Mmh. Et que là, on est dans une société qui peut plus se permettre de faire ça.
Ouais.
Et que peut-être qu'il faudra qu'on accepte de pas acheter un jeu tous les mois, mais d'en acheter deux par an. Et qu'il soit plus cher, peut-être, mais qu'on y joue vraiment. Et que nous, les éditeurs, on les soigne vraiment, on comprenne qu'on en édite peut-être un par an, deux par an. Mais... Mmh. Je me dis qu'il ne faut pas qu'on aille de ce côté-là, quoi.
Ouais.
C'est pas une bonne idée.
Est-ce que tu sens qu'on arrive à cette bascule aussi ?
Je pense que la société, elle arrive dans cette bascule.
Oui, exactement.
En fait, qu'il faut qu'on prenne le virage. Mm. Et que je pense que si on ne le prend pas de façon volontaire, il va nous revenir dans la face.
Oui.
Et ça va être violent.
On sera forcé de le faire, ouais.
Ouais.
Totalement. Mais ouais, ça doit être, ça doit être 15 années... folle parce qu'en fait tu as découvert, enfin toujours devoir s'adapter aussi avec ce milieu qui change hyper vite et puis comme tu disais des mécaniques nouvelles qui apparaissent, ça devait être
mais c'est ouf, mais en même temps c'est quand t'es dedans t'es dans la petite tornade qui est joyeuse qui est et à chaque fois tu découvres mais c'est génial, c'est une super idée, c'est avec ça du coup on pourrait faire ça, ouais. On pourrait faire ça et... Je trouve que c'est un milieu qui est extrêmement créatif, qui a su vachement se remettre en question aussi.
Et puis, mais c'est ça, c'est de la remise en question.
Ouais.
Donc quand tu fais partie du secteur, tu dois aussi être à l'initiative de ces remises en question. Quoi.
Et je pense que ça tient aussi au fait que... Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est que je me dis que si on fait ce métier, c'est parce qu'on est joueur, souvent, parce qu'on le fait pas... Enfin, je veux dire, si tu veux gagner plein de pognon, c'est pas jeu, tu vas pas penser
jeu
de société, c'est pas là que tu vas aller. Donc ceux qui le font, il y a quand même l'amour du produit, et je pense que du coup, c'est aussi des gens qui sont bons joueurs, et donc qui sont capables de reconnaître, de dire, ah putain, l'adversaire à côté, c'est vachement bien ce qu'il a fait.
J'aime bien cette théorie.
Et du coup, je vais m'en inspirer, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, enfin voilà, et c'est très bien, il y a un jeu qui va lancer des tendances, et derrière, peut-être que le jeu qui a été créé à partir de là, à trois générations d'après, il sera meilleur, mais il y a eu le créateur et on le reconnaît toujours.
Ouais.
Toujours là. Un Jungle Speed, par exemple, il a lancé toute la mode du jeu
d'action-réaction.
Ouais. Et y en a eu des très bons, finalement meilleurs en termes de mécanique qui sont arrivés après, mais on reconnaît tous l'ancêtre, la base, qui est celle-là. Et je pense qu'il y a ce côté du coup curiosité de l'autre, même si c'est... Oui, ok, on est concurrent, mais en fait, on fait un métier créatif et donc on admire aussi le travail de l'autre et on est capable du coup d'aller chercher le meilleur chez les gens, chez les autres. Je pense que
c'est une belle hypothèse.
C'est peut-être un peu Miss France comme réponse.
J'adore. Non, mais j'aime trop parce que c'est vrai qu'on est dans un secteur assez bienveillant.
Ouais.
Alors, on peut se dire que c'est parce que c'est un secteur jeune, dans le sens où c'est encore. Ça se professionnalise, mais il y a encore pas trop trop longtemps, c'était quand même assez amateur. Mais j'aime bien l'idée que ça serait parce qu'en fait, on est des joueurs.
On
est des bons joueurs. Et ça, c'est beau.
Et qu'on sait perdre aussi.
Ouais, c'est ça.
Il y a des mauvais joueurs dans la vie, hein. Il y en a aussi dans le métier. Hein. Mais globalement, moi, des fois, j'ai cette impression-là où on va être capable de féliciter celui qui a gagné un prix, même si on avait notre jeu dedans, parce que mais en fait, il était trop bien.
Il est bien ton jeu,
c'est clair. Et on est capable de le reconnaître.
Trop stylé. Et alors, t'es quel genre de joueuse, toi ? Justement. Bonne joueuse ? Non, moi, je suis super mauvaise joueuse.
Non, alors moi, je... J'ai aucun problème à perdre, voire même souvent si je sens qu'il y a quelqu'un à la table qui a besoin de gagner, c'est pas du tout.
Tu sais,
il y a des gens qui mettent
ça.
Trop de leur petit cœur, je veux pas le briser. Non, en fait, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience ludique.
Ouais.
Donc après, j'aime pas quand le jeu je sens qu'il me dépasse et que je comprends rien et que je me sens un peu bête. Ça, il y a un côté des fois, tu te sens un peu humilié, genre non, mais en fait, là, j'ai juste pas le niveau. C'est pas très agréable. Mais le reste du temps, j'aime l'expérience ludique, que ce soit de la frustration des fois de dire « Non, mais je voudrais faire ça, mais non, je veux faire ça !» Voilà, ou les échanges ensemble de communication qui peuvent se faire sur certains jeux. Enfin, voilà, c'est l'expérience qui m'emporte le reste.
Et est-ce que tu as encore l'occasion de faire découvrir des jeux aux gens ? C'est-à-dire, est-ce que dans ton entourage, tout le monde joue
un peu. Alors, avec le temps, plus ça va, je t'avoue, plus c'est compliqué. Il y a des enfants, il y a machin. Je fais plus jouer des enfants maintenant. Donc c'est ma fille, quand elle amène des copines à la maison, ouais, des jeux comme ça, on va jouer à des jeux, on va leur faire découvrir des jeux. Et puis là où avant on se faisait des soirées jeux avec les copains qui duraient 4 heures, où on sortait les Battlestar Galactica et on envoyait un peu du pâté, voilà, maintenant je sors des Tom 10 et aux soirées à l'apéro pour se détendre.
Oui.
Voilà, donc ça change un peu, mais il y a toujours. C'est régulièrement où on se regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'on va. Ouais, on va se faire un petit jeu quoi.
Ouais.
Voilà, ça intervient dans la soirée à un moment et ils sont toujours contents qu'il y ait quelqu'un pour leur expliquer la règle de jeu pour pas avoir à se la tenter.
Donc c'est toi qui est.
Ouais, régulièrement.
Souvent pour cette tâche. Ouais, d'ailleurs les règles, t'as dû t'en tartiner pas mal. T'aimes lire des règles?
Non.
Non.
Non. Je peux pas dire ça. J'aime, ouais, voilà, je suis d'ailleurs. Et puis il y a des règles bien écrites et il y a des règles mal écrites aussi. Donc une règle bien écrite, normalement, c'est pas désagréable parce que tout est logique, au fur et à mesure toutes les briques se mettent en place dans ta tête, tu dis oh, ok, c'est par là qu'on va, on y va. Et du coup ça va, mais c'est pas non plus, c'est pas mon hobby préféré.
Et elle est comment ta ludothèque? T'as une grosse ludothèque?
Écoute, elle a été grosse et puis j'ai eu une vague un peu minimaliste à un moment où j'ai tout donné en gardant vraiment que ceux auxquels je jouais régulièrement, ceux auxquels aussi j'étais attachée.
Ouais.
Mon pire house trône sur mon buffet et j'y joue régulièrement. Donc elle est pas énorme, mais dedans il y a des jeux auxquels je joue et que j'aime quoi. Mais j'ai pas de collectionniste.
Oui. T'es sortie de ça.
Ouais,
tu l'as été
ouais.
Un peu.
Un peu. Je pense qu'au début, quand t'arrives, tu vois, on en parlait avec mon collègue Étienne, qui a un jeu de chez Gigamic aussi. Et la première fois qu'on est allé à Essen, on était un peu geek, on était complètement fous. On a dépensé je ne sais combien de pognon. On a acheté des dés, on a acheté des. Je me souviens avoir acheté une chope à bière en mousse pour les, pour les décors. Enfin, voilà. Et on avait ramené 1000 jeux. On était trop bien. Et puis, au fait, au fur et à mesure, on était là. Non, mais en fait, on va même pas sortir du stand là. Non, c'est gavé, il y a trop de monde.
C'est clair.
Et puis, je pense qu'aussi, c'est des choses. On se détache un peu du matériel avec le temps, je pense.
Ouais. Peut-être. Oui, et puis t'arrives peut-être dans une période où t'as pas envie de.
De cumuler.
Ouais. Et du coup, t'achètes encore des jeux, j'imagine?
Ouais, ça m'arrive.
Et comment tu les achètes? C'est quoi qui t'appelle dans ce que t'achètes là?
Je vais quand même me renseigner parce que des fois, il y a la couverture qui t'attire et t'as vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et puis, ou alors, tu vois là par exemple, j'ai. Comment il s'appelle? C'est Alice.
Is Missing.
Bah, celui-là, le concept, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne et j'ai envie de tester l'expérience parce qu'elle a l'air intéressante. Donc ça peut être l'expérience qui me donne envie, ça peut être aussi parce que c'est les copains du jeu et que quand Mathieu il me dit tiens teste ça c'est trop bien, je le prends et on va jouer, ça va être super. Et puis c'est souvent en testant aussi chez les uns chez les autres.
Ouais. Yes. Et du coup au niveau des visuels, parce que tu disais qu'il y a eu une évolution dans les visuels, du coup toi ça joue beaucoup dans ton expérience de jeu?
Ben, je pense qu'en fait, le visuel t'attire au jeu et la mécanique t'y fait rester. À partir de là, même si la mécanique est vachement bien, si c'est mal emballé, tu vas y jouer, mais ce sera. Ça veut dire qu'il faut vraiment que la mécanique soit très très forte pour compenser sa sale gueule.
C'est ça.
Donc je pense que c'est ce qui attire. Donc c'est forcément hyper important parce que comme il y a une offre qui est énorme, il faut que tout à coup on s'arrête devant, qu'on se dise ah tiens, j'ai envie d'aller voir. Et comme tu vois une couverture de livre, quand tu le vas dans tu vas au fur et à la FNAC, il y a des milliards de couvertures partout, t'as pas forcément fait toutes les reviews pour savoir.
Et ouais, c'est ça.
Et donc il y a un titre et une image et c'est ça qui va faire que tu vas retourner, que tu vas lire la quatrième et que tu vas dire ah bah ouais ok ça je prends.
Ouf. C'est ça.
Mais voilà, c'est l'envie d'aller retourner la boîte pour savoir ce que c'est.
Et c'est quoi, du coup, tes mécaniques préférées?
Ah, bonne question. J'ai eu un petit kiff pour le draft. À un moment, j'ai trouvé que c'était quand même vachement intéressant. Parce qu'il y avait vraiment un côté nouveau que j'avais trouvé vachement
L'équilibre que ça apporte.
Ouais. Donc ça, c'était cool. Puis après, non, ça dépend vraiment de l'expérience. Je suis assez open. Faut juste pas que j'ai l'impression de jouer avec un fichier Excel. Tu vois, c'est ce moment où ça me dépasse. Où je dis non, mais là, ça me demande trop de réflexion. C'est plus drôle, en fait. Du coup, voilà. Donc ça reste de la prise de tête, mais sans plus. Enfin, là, tu vois, ma limite, c'est ça. C'est les Battlestar Galactica, ce genre de trucs. Voilà. Là, c'est cool. Il y a plein de petites règles partout, mais il y a les petits twists du rôle, le rôle caché. C'est assez rigolo.
Et chez Helvétique, du coup, tu t'occupes de la communication et du marketing.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, tu fais aussi la com et le marketing pour les livres.
Pour les livres, ouais.
Donc là, ça rejoint ta formation de base.
C'est ça. Ouais. Je retourne à mes origines.
Et tu fais des parallèles, du coup, entre la littérature et les jeux, maintenant que tu vois ces deux milieux?
Bah, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai toujours, quand j'expliquais à des gens qui connaissaient pas le milieu, ce que c'était être éditeur de livres, de jeux, pardon. Jeux.
Oui, moi souvent, je dis.
Souvent, j'utilise le parallèle avec l'édition de livres parce que moi, c'est beaucoup plus proche de ça, alors que les gens pensent qu'on est beaucoup plus proche du jouet.
Oui,
ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est l'idée, voilà, d'expliquer, bah, en fait, il y a un proto, qui a un manuscrit, mais c'est pareil, il y a un auteur, et il y a un développement. Alors, évidemment, en termes de matériel, c'est plus du tout la même histoire, mais en fait, la démarche d'un chef de projet dans les deux cas est assez proche, en fait.
Enfin, moi, c'est ce que je dis, mais en effet, peut-être que tu vas me contredire en disant, finalement, j'ai découvert que non, mais tu confirmes.
À part pour la partie production matérielle, où là, d'un coup, il y a un vrai gap qui se fait. Mais sinon, les grandes lignes, c'est les mêmes.
En fait. Ouais. Et donc, tu participes à des salons aussi de livres?
Alors, j'en ai pas encore fait. Mais il y en a un, par exemple, il y en a un gros juste après Essen qui s'appelle Francfort. Et ça, j'y serai peut-être d'y être l'année prochaine, parce que là, cette année, je vais faire Essen, mais peut-être l'année prochaine. Enfin, j'ai pas encore fait des salons. Mais je pense que je vais en faire, ce sera cool.
Et du coup, Helvétique, c'est spécifique. Vous faites des produits spécifiques aussi par rapport à la Suisse.
Oui,
il y a cet aspect un peu local.
En fait, il y a des jeux, qui sont chez Wilson, qui sont vraiment des jeux de cartes. Tout va bien. Et puis il y a quelques jeux qui sont vraiment spécialisés suisses. En fait, Helvétique, le don vient du premier jeu d'Helvétique qui s'appelait Helvétique, et qui était un jeu. En fait, Adi Barquette, le patron d'Helvétique, avait créé un jeu parce qu'en fait, il a voulu se faire naturaliser en Suisse. Et pour ça, tu dois avoir une culture générale très forte en fait sur la Suisse, voire même que les Suisses, n'y arriveraient peut-être pas. Et en fait, il a trouvé que c'était quand même pas très marrant, d'apprendre ça par cœur. Et il a pensé à tous les gens qui étaient dans son cas, et donc il a créé ce jeu comme ça. Mais au départ, voilà, vraiment comme ça. Et il a fait quelques exemplaires, et en fait, il les a tous vendus, puis il en a fait 10 000, tu vois, en Suisse, c'est quand même. C'était quand même dément, et c'est comme ça qu'il a lancé Helvétique. Donc, c'était vraiment sur le côté suisse. Et dans la partie. Alors, ça se voit un peu moins sur la partie jeu, même si on a des coulisses sur la Suisse ou des choses comme ça. Mais. Dans la partie livre, on a beaucoup de livres qui sont vraiment spécialisés sur qu'est-ce qu'on bouffe en Suisse, où est-ce qu'il faut aller se promener.
Ah, c'est cool, ça fait une démarche qui change aussi, qui te fait découvrir de nouvelles choses.
Ouais, carrément. Et on a quand même un livre de recettes qui s'appelle Haute Raclette, dans lequel il y a 50 recettes de raclette, dont la raclette flambée, que je vous conseille absolument. Très impressionnant, parce qu'il y a la demi-tome, tu vois, parce que c'est la vraie raclette, c'est pas le petit machin. Et il te l'a fait flamber.
Est-ce que c'est vous qui avez participé à cette odeur de fromage dans
Alors,
tout
c'est pas nous,
le
mais
palais
d'un coup, on s'est senti chez nous. On s'est dit, mais tiens, il y a l'auteur d'autres fondus qui est là, qu'est-ce qu'il fait?
Oui, alors pour vous contextualiser, je ne sais pas, il y a une obsession pour le fromage dans les joueurs peut-être, mais il y a une odeur de fromage persistante.
Non, mais hier, il y a une raclette géante.
Il y a
eu
une raclette géante en bas.
Ouais. Bah, oui.
Il y a peu d'aération, donc je pense
en
que
bas, c'est un peu ça reste... serait mieux fait de faire ça en haut.
Ouais. C'était audacieux quand même.
Oui, c'était audacieux.
Toi, t'es en haut.
Ouais, moi je suis en haut.
Ça va, t'es tranquille.
Ouais.
Moi aussi. Ok, et est-ce que t'as un jeu chouchou de tous les temps?
Chouchou
peut-être
de tous les temps?
Battlestar Galactica, tu nous disais?
Dans les plus experts, ouais, ça a été un vrai gros coup de cœur. Là. Voilà, je me suis pris un peu une claque quand j'y ai joué. Ouais, c'est vrai que c'était. Ouais, celui-là.
Ouais, ce serait celui-là. Celui qui ravive de bons souvenirs.
Ouais, voilà, la flamme geek ressortir. Un peu en moi.
C'est ça. Oui, t'es quoi tu te considères comme une vraie geek?
Non.
Non.
Non, non, je sais pas. J'ai pas toute la connaissance et la culture qui va avec. C'est juste qu'en fait, je suis curieuse de tout et que tu peux me mettre un truc ultra geek devant moi. Bah ok, on y va, vas-y, c'est cool. Mais j'aime aussi. Enfin voilà, je crois que le jeu qui ressort le plus souvent en ce moment chez moi, c'est Top Ten.
Top Ten, ouais. Bah oui.
Donc.
C'est tellement simple à sortir.
Voilà. Et ça fait rire tout le monde et ça crée de l'émulation dans des gens qui se connaissent pas, c'est hyper facile.
Ouais, ouais.
C'est hyper cool. Donc, et plus ça va, plus ouais, je vais plus aller vers le jeu qui se joue en 20 minutes.
Qui se joue facile, ouais. Rapidement, ouais. Ouais. Ben ouais, c'est sûr. Mais parce que tu joues principalement en famille.
Ouais, en famille avec les copains qui passent, mais on fait plus les soirées qui durent 4-5 heures.
C'est ça, à un moment, c'est compliqué de sortir un jeu de 3 heures, quoi. Il faut trouver les gens aussi.
Oui.
Et ton dernier coup de cœur, ça serait quoi?
Mon dernier coup de cœur. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Mais je pense que. Alors, je suis biaisée, mais tant pis, hein, j'ai le droit, t'as dit que je disais ce que je voulais. En fait, les deux derniers jeux que j'avais signés chez Gigamic, c'était Acropolis et Critical. Et oui. Et on avait eu avec l'équipe vraiment un coup de cœur dans les deux cas. Alors Critical, c'était un peu différent parce que on est vraiment parti d'un concept où on s'est assis avec les auteurs et on s'est dit non mais en fait ce qu'on voudrait c'est une initiation mais aussi pour le MJ, pour au jeu de rôle, comment on fait, vas-y on fait ça. Et ça a été beaucoup de travail pour bâtir l'idée de base, pour se mettre d'accord, enfin voilà, mais et puis ça a été après suivi par Joseph, le chef de projet, et ils ont fait avec les auteurs un boulot monstrueux, et du coup de le voir sortir et de voir que ça marche et qu'ils ont réussi ce pari qui était quand même hyper audacieux, je trouve que c'est voilà, j'espère qu'ils vont réussir leur coup parce qu'ils ont travaillé comme des malades et que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de l'initiation pour être maître du jeu, qui est quelque chose qui peut effrayer beaucoup de gens qui peuvent être attirés par le jeu de rôle mais qui se disent non mais maître du jeu, il faut se taper un livre de 200 pages, c'est l'horreur, j'y arriverai jamais, puis je suis trop timide, puis je saurais pas quoi dire. Et là, en fait, c'est vraiment, on te prend par la main au départ, on te prend vraiment complètement par la main, puis on va te lâcher la main tout petit à petit, jusqu'à ce que tu vois tout ce que tu peux faire et comment tu peux le faire et que tu te sentes assez à l'aise pour le faire. Je trouve que c'est super. Et Acropolis, je trouve qu'il est juste trop bien, quoi. Et
il a vraiment buzzé cet été, et j'avoue que.
Et du coup, il est dans mes coups de cœur et je le ressors vachement facilement aussi à la maison parce qu'il se joue vite, que t'as envie de recommencer tout le temps, de se dire « Oh merde, j'ai merdé, j'aurais dû faire ça, allez, je recommence. Enfin, » Il a tout ce qu'il faut pour être vraiment un bon petit jeu qui s'installe. Quoi.
C'est clair. Et du coup, oui, tu faisais vraiment de la gestion de projet chez Gigamic. Tu continues de faire de la gestion de projet, du coup, chez Helvetic?
Non, là, du coup... Je suis pour la partie éditoriale, c'est Ludovic qui s'en occupe. Alors voilà, je suis à sa disposition et on échange souvent parce que il sait que je connais un peu le truc, mais c'est sa part à lui et moi je viens juste en soutien derrière.
Ouais. Donc plus la com.
Ouais, plus la com et le marketing.
T'as déjà fait des trucs super super fun en com quand même. Tu sais t'amuser.
Oh, bah, il faut, écoute.
Non, mais ça me fait penser à la vidéo ASMR.
À l'ASMR. Mais oui, mais parce que. Et quoi, en plus, on a fait ça en 5 minutes parce que d'un chouette. Coup, quelqu'un m'a expliqué dans le bureau le concept d'ASMR.
Ah oui.
M'a montré une vidéo. Mais c'est pas vrai, il y a tout un monde que j'ignore, c'est trop bien. Et du coup, j'avais trouvé ça tellement drôle. Et du coup, on avait la caméra, on a fait ça en 5 minutes. Mais je trouve que. Mais puis quand je vois, en fait, tu vois, des fois, je me fais suer à faire des plans de communication avec... oui, alors on va faire des vignettes, on va faire ça, il y aura tout un plan très sérieux, et t'as deux likes, t'es là, bon... et tu mets une connerie que t'as fait en deux secondes avec ton collègue, avec une boîte et avec un décor. Et d'un coup, t'en as 100. Alors bon, je pense qu'il faut s'amuser, que les gens le ressentent, que du coup, ils voient qu'il y a de l'humain et que éventuellement il y a de l'erreur et il y a de la connerie. Et en fait, ça fait du bien parce que en fait, tous les trucs aseptisés, les communications aseptisées, tout le monde en a marre, il y en a partout. Donc je pense que si on s'amuse, les autres s'amusent globalement.
Bah disons qu'on a un outil tellement chouette avec le jeu.
Ouais, en plus.
Que si on se prend trop au sérieux, enfin.
Bah mais non, ça marche pas.
Ça marche pas quoi. Donc en effet, enfin, moi qui fais de la com, je suis trop contente de faire de la com dans le jeu parce qu'en fait. C'est trop bien, c'est trop rigolo.
On n'a pas envie de faire que ce salon là il finisse avec tout le monde en costard cravate.
Oui.
Ah oui. Qui teste plus les jeux,
c'est
mais
ça,
qui parle
peut-être.
Juste des
chiffres. Je crois
que c'est
ça le futur.
Mais j'espère que non, on va lutter, on va être con jusqu'à ce que. Moi je serais con. Juste pour pas que ça arrive. Non, lutter, jamais. Je ne veux jamais voir une cravate dans un salon du jeu, au secours.
C'est vrai, ça.
C'est vrai, hein, franchement.
J'avais pas pensé à ce futur possible.
Mais des fois, quand je vois les gros arriver, tu vois, les HL.
Ouais.
Et les gens, je sais pas si je les vois bien ça, mais c'est pas grave. Les gens de chez HL, je sais que quand ils ont vu que nos commerciaux, ils avaient pas de costard cravate, ils étaient un peu, dis donc. Ils nous étaient là, attends,
dans nos commerciaux,
tu vas en boutique spé en costard cravate, tout le monde se fout de ta gueule.
Ah oui, c'est un peu spécial.
Et tu sors en fait. Il faut connaître tes jeux, ça c'est important. Par contre, le costard, tu le laisses à la maison.
Le vêtement, bon.
Donc voilà, non, moi je veux que ce milieu arrête de ne se prenne pas trop au sérieux, même s'il y a des gros qui arrivent, on va les déniser un peu.
Ah ouais, ça fait un peu épisode de Black Mirror là.
Imaginez le monde du jeu dans 40 ans. On jouera avec que des trucs, des modèles sérieux d'économie. Tiens. Le capitalisme s'est cassé la gueule, qu'est-ce qu'on va faire? Résolvez ça en trois scénarios.
Ouais, c'est vrai que ça pourrait devenir ça, dis donc.
Mais il faut pas que ça devienne un monde à pognon, en fait. Il faut que ça reste un monde de passionnés et pas un monde de pognon.
Ouais, c'est ça.
Et ça, il faut que les passionnés, il faut qu'on lutte un peu. Et qu'on les empêche de rendre tout ça trop sérieux. En faisant les comptes, tant pis, on va les choquer un peu, c'est pas grave.
Donc, continuons de faire nos posts de réseaux sociaux complètement débiles, à l'arrache.
Soutenez-nous.
Et surtout, mettez des likes.
Oui.
C'est exactement ça, en fait.
Bah,
ouais. Et tu joues quelle couleur, toi?
Globalement, celle qui reste, en général. mais si j'ai le choix, je prends le rouge, en général.
Merci, Mathilde.
Bah, merci, Laurel. C'était super.
Merci à Mathilde d'avoir joué le jeu de l'interview. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note si votre appli de podcast préférée le permet. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. En attendant, amusez-vous.